mer. Moi, je me glisse dans les habits de compositeurs connus sans le moindre scrupule. L'origine de cette pièce va peut-être vous intéresser du point de vue forme. C'est en fait une musique de scène fort, fort importante pour la Tempête de Shakespeare pour la télévision. Et c'est une traduction du poète André Debouchet qui est très belle, et c'est lui qui m'avait suggéré, parce que le tournage avait eu lieu dans une île, comme c'est le cas de La Tempête qui se passe dans une île. Ça avait eu lieu à Porquerolles, donc on était entouré de mer, mais il m'a dit ce qui serait très beau, c'est qu'il y ait une évocation de la mer bien reconnaissable, une sorte de leitmotiv vague. Qui apparaissent dans le courant du film, même lorsqu'il n'y a pas d'image de mer. J'aimais beaucoup cette idée-là. Donc la mer dans la tête, en quelque sorte, hein. Et donc j'ai composé des vagues. Une vague, deux vagues, trois vagues, cinq. Sans savoir dans quel ordre elles seraient montées, et en prévoyant qu'elles puissent être montées dans des ordres différents. Et pour ça, bon, il fallait prévoir un système d'accrochage, littéralement, comme des éléments qu'on achète au BHV ou ailleurs. Et le système d'accrochage, c'est une hauteur pivot, donc qui sera tout au long de la pièce, le mi bémol. Il y a une sorte d'évocation de la mer étale qui se fixe sur mi bémol et puis qui repart ailleurs, hein. C'est une œuvre tempétueuse, littéralement, qui bouge beaucoup au point de vue harmonique. C'est une œuvre donc qui, au départ, était très conditionnée par l'idée de la tempête, hein. Et donc, j'ai, après avoir écrit la musique de scène, j'ai eu entre les mains une cassette, comme on faisait à l'époque, et donc les différents éléments enregistrés séparément, comme on fait pour un film. Et je me suis amusé à coller mes vagues ensemble. J'ai appris à faire ça, bon, avec des collants, hein. Et puis je me suis passé les vagues les unes après les autres. Et puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ça pourrait peut-être marcher au point de vue forme, c'est-à-dire une forme en vague, avec différents groupes, des trains de vagues, littéralement. C'est une idée assez simple, mais finalement que je retrouve chez certains musiciens dont la forme pose problème en matière d'analyse traditionnelle. Moi, j'ai retrouvé cette forme en vague ou en crête, en sommet, chez Berg, par exemple. Quand on prend les trois pièces pour orchestre, je ne vois pas comment l'analyser autrement, mais que comme ça, et avec un point culminant, puis ça redescend, hein. Et ça a tout à fait un sens, c'est quelque chose qu'on perçoit, hein. Et donc, quelques temps après, je me suis retrouvé au seuil d'une année très, très chargée, où j'ai eu à écrire un concerto de piano, un concerto de trompette et la pièce d'orchestre pour Tanglewood. Des occasions, n'est-ce pas, comme il vous arrive rarement, donc on ne peut pas dire non, hein, il faut le faire. Bon. Alors pour la pièce de trompette, c'était encore une histoire que je vous raconte en passant, n'est-ce pas? Vous avez entendu Miles Davis l'autre jour, j'étais très dans Miles Davis, on ne va pas l'entendre, mais je vous raconte l'histoire parce que c'est l'histoire de démarche de compositeur. J'avais mon fils qui commençait la trompette, et donc il y avait une commande pour l'ensemble intercontemporain qui venait de commencer, hein. Et donc on m'a dit, il faudrait mettre en valeur un des solistes. Bon, et j'ai pensé au soliste qui était le professeur de mon fils. Voilà. Comme la famille se lie à mon fils qui est devenu trompettiste de jazz depuis. Voilà. Et donc j'ai écrit pour lui. Et alors, je partais aux États-Unis pour Tanglewood, justement, et juste avant, je reçois un coup de téléphone me demandant une présentation pour la pièce que je n'avais pas du tout commencé, ni même pensé. Et donc, j'ai écrit la présentation de cette pièce dans l'avion, et ça m'a obligé à commencer à composer. Et avec une précision incroyable. 11 leaders pour trompette et orchestre. Bon, du coup, il a fallu que je fasse 11. Vous voyez, c'est parfois une très bonne chose qui amorce la pompe, parce que c'est toujours très difficile de commencer. Mais je n'avais pas commencé à écrire, mais ça commençait à mijoter là-dedans. Et après ça, j'ai donc eu à écrire cette pièce d'orchestre pour l'orchestre, ce qu'on appelle Pickup Orchestra, qui est à Tanglewood, qui est magnifique. C'est-à-dire un orchestre qui se forme pour l'été avec des sélections très sévères et qui est magnifique. Et je me suis dit, bon, j'ai pas le temps d'écrire quelque chose de complètement nouveau. Je vais reprendre la pièce de la musique la musique de scène de La Tempête. Ça va me faciliter le travail, pensez-vous. C'était pas vrai du tout, hein, parce que il fallait tout réécrire. D'abord, j'avais écrit pour 30 instruments. Là, c'était un orchestre symphonique considérable. Et puis, c'était trop court. Enfin, je veux dire, j'avais des petits bouts qui n'étaient pas liés. Alors, j'ai quand même repris, mais donc réorchestré, repensé, fait un petit peu proliférer la musique de La Tempête, et j'ai rajouté d'autres vagues. J'ai rajouté d'autres vagues qui s'accrochaient aussi dans ces moments. Et donc, vous avez là une œuvre d'un seul tenant où ça respire jamais. Ça, c'est aussi une constatation que j'ai faite, mais enfin, la mer s'arrête jamais non plus, hein. C'était légitime. Mais après cette œuvre, je me suis rendu compte que c'était devenu presque une manie chez moi que de ne jamais arrêter. Je veux dire, chaque fois que j'avais envie de faire un silence, de ne pas respirer, le son était tenu. Hein. Je dis, ça suffit, il faut que tu écrives des silences. Hein. Et du coup, je me suis forcé à composer un petit quatuor que je vous ferai tout à l'heure, un tout petit quatuor de 2 minutes 30 en 5 mouvements. Hein. Une sorte de miniature. Entre les mouvements, on s'accorde comme un vrai quatuor, mais. Donc ça m'a obligé non seulement à respirer, mais à imaginer comment on écrivait plusieurs mouvements. Et je dois dire que depuis, je suis très fasciné par l'écriture en plusieurs mouvements, ce qui n'est pas très courant. Hein. Mais je crois que nous le faisons tous d'ailleurs maintenant. Hein. Vous avez vu, il y avait trois pièces quand même, quatre pièces, j'ai fait hier, oui, c'est ça. Donc, c'est devenu, et même en musique de chambre maintenant, c'est devenu quelque chose que nous refaisons. Mais avant, c'était toujours un mouvement, 20 minutes toujours, parce que ça collait dans les disques, ça collait dans les concerts. 10 minutes, 20 minutes, pas beaucoup plus, hein. Bon, j'ai pensé que je vous ferais entendre donc cette pièce-là. Et alors, juste avant sur ce CD, il y a une pièce très très courte. Alors, on ne peut pas faire plus court. C'est pas un gag, hein, c'est une pièce pour orchestre, grand orchestre qui dure 1 minute et qui s'appelle Just a Minute. C'était une pièce d'anniversaire pour l'orchestre de Boulder qu'on m'a demandé. Et là aussi, il y avait un problème amusant. C'est toujours lié à des circonstances, disons, pratiques. Là aussi, j'avais un peu tardé à donner ma réponse. Et alors, on me téléphone, on me dit, mais alors? Hein? Et je dis, oh, just a minute. Et puis tout à coup, je commence à entendre, just a minute, just a minute, just a minute. Et c'est devenu just a minute. Bon, une petite pièce sur just a minute. Voilà. Voilà. Donc c'est l'enregistrement de l'orchestre. Mais j'ai pas de partition là, hein. C'est le manuscrit. Hein. Just a minute. Bon, alors, plus sérieusement, mais il faut s'amuser un peu en musique de temps en temps. Alors, donc voilà, Tales of a Summer Sea, vous avez la partition. Alors, petit détail compositionnel, J'avais écrit la partition en ut, comme j'aurais dû, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête à l'époque qu'il valait mieux écrire transposé que comme les grandes partitions, n'est-ce pas? Parce que si jamais Karajan allait nous diriger, il avait l'habitude des partitions transposées. C'est pas vraiment très intelligent. Il se trouve que ça devient assez difficile à lire si on n'a pas l'habitude. Pour moi, le seul problème, je vous fais des confidences, dans la non-transposition de l'écriture en do, c'est les corps. On est tout le temps en train de passer de clé de sol à clé de fa. Je préfère écrire les corps en fa. Et les clarinettes aussi. Enfin. Voilà. Alors, donc, c'est un orchestre dont vous avez la formation au début, qui est assez important. Notamment, il y a deux paires de quatre timbales. Qui sont très importantes. Et là, c'est un enregistrement qui a été fait, je pense, par le... C'est ça, l'Orchestre d'Île-de-France. Mais ça a été beaucoup joué. Ça a été joué donc à Tanglewood, mais ça a été rejoué dans plusieurs villes d'Europe, et même aux États-Unis plusieurs fois. Et ça vient d'être joué à Radio France, encore une fois. Donc... bémol là. je vais quand même que vous sachiez que j'écris aussi pour d'autres instruments que des voix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette œuvre en particulier? Parce que je vais passer à quelque chose d'assez différent tout à l'heure. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions du tout. Bon. Je vous entends pas là. Ouais, excusez-moi, je suis un peu sourde. Pas vraiment, non.
Est-ce que vous avez pensé à des cercles concentriques?
Pourquoi plutôt des cercles qu'autre chose? J'ai pensé à la mer, vraiment, hein. À toutes mes expériences de mer, c'est-à-dire en général de panique absolue. J'ai failli passer par-dessus bord en traversant l'Atlantique. Et donc j'ai des souvenirs de mer assez tempétueuse, fascinante, mais vraiment j'avais besoin d'en découdre avec la mer, si j'ose dire. Qui me fait très très peur. Pardon.
Des tourbillons.
Pardon.
Des tourbillons.
Des tourbillons, mais aussi la grosse vague qui arrive et qui fait terriblement peur et qui reflue et alors qui laisse toute cette écume. Ce sont les mi bémols qui est encore très agité. On sent que ça peut repartir à chaque instant. Et c'est ça qui me fascinait.
D'ailleurs, dans votre morceau d'une minute aussi, je trouve. Enfin, bon, je connais pas votre musique,
oui.
Mais c'est très imagé. Quoi. Enfin, je trouve qu'il y a. Enfin, moi personnellement, je sens des images. Quoi.
Oui, ben c'est ce qu'il faut. Alors, je voulais dire à ce propos, justement, que j'ai donné un titre extrêmement évocateur, hein, exprès, et du coup, je ne parle pas de cette pièce. Quand elle est donnée au concert, il n'y a pas de présentation technique, j'explique pas comme je viens de le faire. Je trouve que ça suffit. Tales of a Summer Sea, chacun dans sa tête a des souvenirs de mer, et donc, j'espère les susciter par ça. Bon, je me disais toujours, en écoutant la mer de Debussy, bon, c'est toujours le problème de l'imitation dont on parle, n'est-ce pas? La mer n'a jamais eu le son d'un orchestre symphonique, voyons, soyons sérieux. Hein, qu'on arrête de nous reprocher l'imitation. Hein. Quand la pièce de musique est ratée, enfin quand elle n'est pas de la musique, alors là, on peut en parler. Hein. Mais dans le cas de la mer, bon, mais Debussy a quand même tenu à appeler ça la mer. Hein. Et même avec de l'aube à midi sur la mer, enfin, jeu de vagues, il a donné des titres qui nous permettent de dans notre tête, mais chacun différemment, hein, c'est ça la musique. La musique qui évoque des émotions qui sont voisines, mais qui sont pas les mêmes pour chacun de nous. La musique est seule à pouvoir faire ça. Je pense que c'est ça qu'il faut savoir quand on écrit de la musique, quand on l'écoute, hein. Et Dieu merci que nous avons ça, hein. Et donc, quand vous me disiez ça, oui, j'ai pensé à la mer. Et c'est en pensant à la mer, mais une mer très agitée, hein, une mer très agitée que j'ai connue plusieurs fois. J'ai fait du bateau, contrainte et forcée, j'ai traversé l'Atlantique, je suis de cette génération, en bateau. J'ai eu des paniques, des peurs, il y avait une tempête, j'étais complètement inconsciente à l'âge de 14 ans, je regardais ça, je trouvais merveilleux le bateau qui faisait comme ça, et puis il y a une vague qui m'a couverte, hein, et je me suis précipitée, j'étais complètement trempée, j'ai eu horriblement peur, et je crois que la mer me hante.
Moi j'avais l'impression de mouvements comme ça, ces deux mouvements-là,
Seulement deux mouvements, ben moi je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça.
Oui, non, mais je veux dire, c'est...
Oui.
Voilà. De temps en temps vers l'intérieur, de temps en temps complètement vers l'extérieur.
Ah bon, mais non, mais pourquoi pas, hein. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus que ces mouvements-là.
Oui,
il y en a bien d'autres. Non, alors j'aimerais bien. Oui. Oui. Non, j'aimerais dire à ce propos quand même, alors puisque vous ne posez pas de questions, c'est moi qui vais les poser, enfin pas les poser, mais les soulever. C'est en fait ma première œuvre de grand orchestre. Elle date de 1977. C'était résultat d'une frustration de plusieurs années. Chaque fois que je voulais écrire une œuvre d'orchestre, on me demandait un concerto. Bon, et puis l'orchestre derrière, le soliste devenait de plus en plus gros. Finalement, j'ai pu écrire vraiment l'œuvre d'orchestre dont je rêvais. Donc c'était une occasion très, très importante. Et je me suis rendu compte, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous écrivent pour orchestre, qu'un des problèmes de l'orchestre, quand on commence, c'est l'occupation de l'espace sonore, hein, du spectre, en quelque sorte. Parce que, et si on est tout le temps sur le plus grand spectre, c'est terriblement ennuyeux. Et donc, j'ai beaucoup joué sur ce qu'on peut appeler acoustiquement les enveloppes. Et les enveloppes qui ont des formes de vagues, d'ailleurs. Alors là, c'est de l'imitation, parce qu'évidemment, elles ne font pas ça. Mais je veux dire, il y a de temps en temps des choses qui partent en l'air, n'est-ce pas? Donc, c'est le registre aigu avec des piccolos et des glocks, des choses qui sont très, très aiguës et très, très étincelantes. Moi, je voyais très, très, très clairement de l'écume dans du soleil, n'est-ce pas? Des choses comme ça. Et puis, alors, il y a parfois la vague qui reflue, et puis tout à coup, qui repart comme ça. Et bon, j'ai rejoint, si vous voulez, en toute modestie, j'ai rejoint Debussy dans son observation du mouvement de la mer nous offre une forme, hein. Enfin, nous suggère des formes, parce que c'est une forme très mouvante, hein. Et je me suis demandé à l'époque comment j'allais faire ça au point de vue. Et je dois dire que cette musique de la tempête m'a aidé à trouver la solution. J'étais parti vraiment de l'idée de vague, c'est-à-dire chose qui fait comme ça, hein, bêtement. Mais heureusement, elles sont pas du tout. Mais est-ce que la mer est régulière, hein? Ce serait drôle une mer régulière quand même. imaginez que la vague soit toujours comme dans les dessins d'enfants, vous savez, comme ça. Ce serait drôle. Non, elles sont pas régulières. Alors je sais pas si vous avez remarqué dans le début, mais là, bon, j'ai fait quand même un plan, hein. Et justement partant de cette idée de train de vagues où il y avait certaines vagues qui étaient plus grandes que l'autre, et puis on revient en arrière. Et puis, moi, j'aime jamais aller directement comme ça, hein. Moi, je fais comme ça, j'avance et puis je recule, j'avance un peu plus et puis j'avance encore. Et il y a une vague énorme qui arrive vers le, je sais pas, le tiers de l'œuvre, je sais pas si vous vous rappelez, très grande, qui occupe tout l'espace. Et quand elle est arrivée en haut, elle monte encore. Et puis alors là, du coup, elle descend, hein. Et elle descend. Et à ce moment-là, je vous avoue que c'était difficile à écrire. Je vais évacuer tout le centre et il n'y a plus que le haut et le bas. Ça a été très fortement mon souci dans cette œuvre, hein. Et bon, au point de vue harmonique, si vous voulez, ce sont des accords. C'est quelque chose que j'ai commencé à écrire dès le quatuor. C'est là que j'ai commencé à réévaluer, si vous voulez, des notions qu'on avait abandonnées, c'est-à-dire les notes, la différence entre la notion d'hiérarchie, si vous voulez, entre les hauteurs. Je veux dire, toutes les hauteurs n'étaient pas égales. C'était contraire à tout ce qu'on disait à l'époque, n'est-ce pas? Surtout dans une perspective sérielle, il y a tous les 12 sons, etc., égal. Pour moi, elle n'était pas égale. Donc, je réintégrais la vieille notion des notes étrangères, des broderies, à l'époque, c'était pas évident. C'était pas évident. Tout n'était pas important. De sorte qu'on pouvait écrire des octaves, mais l'une des notes de l'octave soit une appoggiature, enfin, ou une similée appoggiature pour que ce soit pas entendu comme ça. Finalement, c'était l'écoute qui gouvernait, la manière dont on percevait les choses. C'était vraiment l'écoute. Et puis, alors, l'idée d'un avant et d'un arrière, bon, tous les bons musiciens ont compris ça, mais on théorisait pas là-dessus à l'époque. C'était très important. Et donc j'ai commencé à jouer avec des accords qui glissaient les uns sur les autres à la faveur soit de micro-intervalles, soit il y en a pas beaucoup. J'écris pas beaucoup de micro-intervalles, il y en a, hein, mais qui glissaient. Et le nouvel accord était perçu comme un accord ornemental d'abord. Et puis tout à coup, il devenait note principale, hein. Et j'ai beaucoup joué là-dessus. Et je pense que c'est pourquoi on peut avancer dans cette œuvre, sans quoi on ne pourrait pas. Et puis, alors évidemment, comme nous tous, j'étais assez agacé par certaines œuvres de l'époque qui étaient l'époque pointilliste, n'est-ce pas, où il n'y avait rien entre les notes. C'était d'une tristesse affreuse. Et on a tous voulu réintégrer aussi l'idée de remplissage. Après tout, que toute la musique classique a compris depuis longtemps, le remplissage, c'était des arpèges, c'était des gammes, c'était tout ça. Donc on a tout commencé à repenser à tout ça. Donc là aussi, sans arpèges et sans gammes, je veux dire sans l'équivalent, une œuvre comme ça était impensable, n'est-ce pas ? Bon. Ça a l'air évident aujourd'hui, si vous voulez, nous savons tous faire ça maintenant, mais à l'époque, 77, ce n'était pas encore tout à fait clair. Et du point de vue harmonique, je crois que c'est assez différent de ce qui se faisait à l'époque. Hein. Je pense. Voilà, alors maintenant je voudrais vous faire entendre, dans un contraste absolu, une petite œuvre toute petite, c'est mon quatuor 4, donc c'est le quatuor dont je vous ai parlé, qui est très très court, qui est un vrai quatuor, quatuor adulte, mais miniature. Hein. Je précise donc il y a six quatuors actuellement. Donc il y a le premier. Bon, je n'ai pas publié pour l'instant parce que je ne suis pas tellement ravi de ce quatuor, mais c'est mon premier, hein, quatuor à cordes. Deuxième, avec voix que vous avez entendu peut-être certains d'entre vous l'autre jour. Le numéro 3 qu'on va entendre la semaine prochaine avec les Ardités, qui sont des études pour quatuor, pour vraiment quatuor. Le numéro 4, c'est celui-là. Et le numéro 5, c'est un grand quatuor de 25 minutes en combien de mouvements ? 9 mouvements. Hein. Là, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Et le quatuor 6, c'est un quatuor qui répond au quatuor avec voix. C'est en fait un trio avec clarinette, hein, où la clarinette est traitée comme quatrième instrument. Hein. Voilà. Donc, tout ça, on le trouve à la bibliothèque, là. À propos de bibliothèque, j'ai parlé l'autre jour d'un livre. Ça n'est pas disponible à la bibliothèque. Apparemment, les livres ne sont pas disponibles, donc on ne peut pas vous demander de les acheter. Mais enfin, bon, ils sont là. Le livre qui s'appelle Molto Espressivo, dans lequel j'ai développé beaucoup des idées qui étaient celles des trois conférences. Hein. Si ça vous intéresse, si vous avez l'argent, parce que évidemment, moi, j'en ai pas non plus. Ce sont des collections d'articles, notamment mes quatre conférences que j'ai faites à Berkeley qui s'appelaient Molto Espressivo, qui sont qui sont vraiment le condensé de ce que j'ai dit au cours de mes trois conférences, hein, concernant la voix et l'expression. Hein. Ah oui, il a les partitions, oui, tout à fait. Oui. Pardon. Ça, c'est pas difficile, hein. Quatuor à cordes. Alors là, le problème d'écrire, je me suis dit, je vais faire ça en une matinée, hein, pour me détendre. Hein. C'est pas vrai, hein. Ça marche pas comme ça. C'est pas facile à faire. Parce que un petit mouvement de 30 secondes, pour que ça ait du sens, il faut que ce soit une phrase complète. Hein. Sans quoi, ça ne veut rien dire. Hein. Donc, c'est vraiment des miniatures de quelque chose de tout à fait signifiant, je crois. Hein. C'est un problème, une problématique qui n'est pas sans intérêt, je pense. Alors. Thank you. Alors oui, il y a ici déjà l'amorce d'une réflexion sur les rapports entre les mouvements. C'est quelque chose qui me préoccupe encore beaucoup aujourd'hui. À travers mes cours au conservatoire d'analyse, j'ai acquis la conviction, n'est-ce pas, qu'il y avait forcément un rapport entre les mouvements d'une œuvre, en plusieurs mouvements, que ce n'était pas forcément des choses mises bout à bout. Et notamment dans la sonate, je veux dire, et le rapport est souvent très secret. Ce ne sont pas des motifs qui reviennent, mais c'est souvent des intervalles. C'est un rapprochement qu'il faut faire au niveau le plus minuscule, souvent. Hein. Je pense que Claude Elfer a dû en parler à propos de Beethoven. Hein. Et en tout cas, c'est quelque chose qui a été l'objet de réflexion de la part des compositeurs du XXe siècle, notamment, et Berg, en particulier dans la suite lyrique. Ça m'a toujours passionné, je veux dire, cette façon dont il anticipe dans un mouvement quelque chose qui va arriver deux mouvements plus loin, et puis inversement, il rappelle quelque chose qui est déjà passé, de façon extrêmement discrète, simplement, c'est presque dans la tête. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce petit quatuor, le petit bébé quatuor, vous avez un rapprochement entre 1 et 5, et puis vous avez un rapprochement entre 2 et 4. Hein. Et puis, bon, ce n'est pas par hasard que j'ai pris 5 mouvements, là, c'est un petit peu notre manie à tous, on aime bien les chiffres impairs. Bon, j'ai écrit 11 leaders, j'ai écrit 9, Frauenleben 9 leaders. Le prochain quatuor, c'est 9 mouvements. Et enfin, c'est rarement 2. Hein. C'est rarement 2. L'œuvre que vous avez entendue hier soir est en 2 parties. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment en 2 parties. Mais j'avais pas vraiment l'intention de le partager en 2, mais il se trouve que ça se partage bien. Hein. Que ? Ah oui, c'est... Attends, il faut un micro, là, on n'entend pas. Voilà. Voilà, oui.
C'était le même texte que le morceau précédent qui vous avait inspiré.
Que le morceau précédent ? Quel morceau précédent ?
Il y avait un morceau d'un autre compositeur, je ne me rappelle plus.
Fedele ?
Non.
Mais attendez, vous parlez de
Hier
mon œuvre ?
Hier soir, de votre œuvre, c'était oui. Sur le texte de Pétrarque.
Mais toute l'œuvre est sur...
Le morceau de Chelsea, c'était...
Ah ben, ça n'a rien à voir. Je ne sais même pas s'il y a un texte là-dedans. Hein.
Ben, le texte de Pétrarque, c'était...
Non, attendez, le texte de Pétrarque, c'est moi. Hein. Vous n'avez pas compris ?
Ben non, je n'avais pas compris, parce que moi, ce que je
vous
disais,
avez lu
c'était...
Le programme ?
J'ai lu le programme, et puis voilà. C'était dans l'ordre Chelsea, ça parlait de... Le texte, c'était avant la conclusion de Chelsea.
Qu'est-ce qui a... Enfin, si tout le monde a compris ça, alors c'est catastrophique. Je veux dire, Chelsea n'avait rien à voir avec Pétrarque. Absolument rien.
D'accord. Moi, j'ai compris, parce que vous avez dit qu'il y avait deux parties. Il y a deux parties dans le texte.
C'est simple, parce que vous avez dit qu'il y a deux parties de la pièce que vous avez écrit, mais c'est toujours le même texte.
Mais bien sûr.
C'est toujours la même lettre.
Bien sûr.
C'est
sur
mon forme qui est articulée. En tout
mais oui, voilà. Mais oui, non, mais il y a une pause très courte, mais il y a quand même deux parties dans la pièce. Bon, ça arrive souvent. Mais ça n'a rien à voir avec Chelsea, c'est ça ce qui m'inquiète, qu'on ait pu croire que j'ai quelque chose à voir avec, que Pétrarque a quelque chose à voir avec Chelsea. D'abord, Chelsea, il n'y a pas de texte, à mon avis. Il n'y a pas de voix, d'ailleurs. Vous vous rappelez ? Chelsea ?
Moi, c'est ce que j'ai compris dans le programme. Je ne l'ai pas, mais...
Bon. Personne n'a compris ça, je crois. Hein. Mais...
Je peux ?
Oui.
Je suis désolée, mais vous avez des collègues qui écoutent l'interprétation. Si vous parlez sans micro, ils ne comprendront pas ce que vous dites. OK ?
Merci. Et moi non plus, je ne vous entends pas sans micro. Hein. Voilà. Bon. Je parlais des enchaînements de mouvements. Si on a le temps, on reviendra là-dessus et je vous ferai entendre des extraits de mon quatuor 5. Je voudrais tout de même parvenir à vous faire entendre des œuvres plus récentes, notamment alors le motet 3, hein, qui est bon, le début de mon retour au latin, en quelque sorte. C'est une œuvre que j'ai écrite pour les arts florissants de William Christie. Alors, je vais vous passer des partitions. Je pense qu'il n'y a pas de texte là-dedans. C'est pareil. Non. Bon. Ça, c'est la partition d'orchestre. Hein. Alors, ça a été une expérience tout à fait passionnante qui a été précédée d'une préparation assez longue. Pardon, mais c'est tout ce qu'il y a, oui. Oui. Ah non, il y en a encore une, pardon. Il y en a encore une, oui. Ah, excusez-moi. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous cet ensemble. L'ensemble des arts florissants, c'est un ensemble baroque qui a plus ou moins révélé la musique française. Il a fallu un Américain pour révéler la musique française en France. On n'est jamais prophète dans son pays, comme vous savez. Et moi-même, je n'aimais pas du tout la musique française, qui était, bon, je crois que maintenant je sais pourquoi, parce qu'elle était fort mal jouée. Hein. L'histoire commence, quand même, je vous la raconte, ça commence au conservatoire. William Christie a une classe de formation vocale pour la musique baroque. C'était, je crois, la première fois qu'un étranger était nommé au conservatoire. Et au début, les professeurs de chant interdisaient à leurs élèves d'aller à cette classe. C'est un peu comme ça que ça se passe parfois. Et en fait, bon, on a fini par savoir que c'était important et ils y sont allés. Et alors moi, probablement mes ascendants américains, je rencontre William Christie et je lui dis, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et bien sûr, il me dit, alors je dis, qu'est-ce que vous faites à la classe? Et alors il m'a dit, on va faire Didon et Aîné. Ah, je dis, quelle chance! Et du coup, je prépare Didon et Aîné avec ma classe d'analyse et j'amène tous mes étudiants chez Christie. Bon, ça se faisait jamais, ça. C'était bon. Et alors, on arrive, c'était vraiment la classe d'analyse comme on peut la rêver. C'était formidable parce que chaque fois que je demandais un exemple, il était live. Avec les chanteurs et avec Christie au clavecin. C'était magnifique. Nous expliquant aussi ce que c'était que la réalisation. Il jouait d'une partition de Purcell, qui est la seule qui existe actuellement, où le continuo, vous savez tous ce que c'est qu'un continuo, je suppose, était réalisé. Et les réalisations de continuo de l'époque de cette édition sont complètement délirantes, injouables. Je veux dire, injouable dans le tempo qu'il faudrait. Il y a trop, beaucoup trop de notes, beaucoup trop de notes. Et puis, il ne faut pas jouer d'une réalisation, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis alors, il n'arrêtait pas de parler de Lully. Et moi, je me disais, moi, je détestais Lully. Je trouvais que Lully, c'était très, très ennuyeux. Mais il me dit, non, viens à l'enregistrement de Attis. Et donc je vais à l'enregistrement et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique que je ne connaissais pas du tout? C'était tout à coup une révélation, absolument. Ce qui m'avait fasciné, alors ça c'est tout à fait dans l'optique de ce que je vous ai dit l'autre jour, c'était le passage insensible du récitatif au chant, c'est-à-dire d'une musique assez libre au point de vue fort à une musique beaucoup plus stricte qui était l'aria. Hein. Et ça passait sans séparation, sans rien. Je trouvais ça formidable. Puis après, je suis allé voir le spectacle. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais c'était un des grands moments de la musique. Hein. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a en particulier une scène qui m'a tout à fait bouleversé, qui est la scène du songe, du rêve, du sommeil. Enfin, c'était un grand chant de sommeil. C'était une très belle mise en scène. Bon. Voilà, tout ça, bon, je suis fasciné par l'ensemble Christie. Et puis, je vais à des répétitions. Et puis, on est appelé à une réunion au conservatoire qu'on trouvait très, très ennuyeuse. Et nous rentrons ensemble en métro. Et comme quoi, les choses commencent de façon inattendue. Et Christine me dit, au fait, en plein métro, quoi. Là, on va célébrer les 20 ans des arts sans frontières. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je dis, oui, d'accord. Hein? Ça me disait, j'avais très envie. Ben, c'était 4 ans ou 5 ans avant. Hein? Et chaque fois qu'on se rencontrait, je dis, alors ben, et puis comme ça. Hein. Et donc, un jour, presque arrivé à la date, enfin à l'année ou 2 ans avant, disons, ou un an avant, je lui envoie un mot, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche toujours? Je lui écris en anglais en citant un film de Humphrey Bogart, je crois. If you want me, just whistle. Si vous voulez, sifflez-moi. Bon. Et ben, il l'a fait. Christy, qui ne téléphone jamais à personne, m'a téléphoné. Alors, c'était extraordinaire parce qu'il m'a laissé absolument libre de faire ce que je veux. Nous avons ça. Nous avons des hautbois, nous avons les cornes, il m'a donné tout son ensemble. Nous avons un chœur, nous avons les solistes. Pas de limitation de durée, pas de style, pas rien. Rien, je faisais ce que je voulais. Hein. Alors là, j'ai commencé, je me suis dit, il faut quand même que je me renseigne. Bon, alors j'ai commencé à fréquenter toutes les répétitions du moment. Donc j'ai assisté à plusieurs répétitions de Zoroastre, de Rameau, y compris le concert. J'ai assisté à des répétitions de Israël en Égypte, qui est un grand chef-d'œuvre que je vous recommande, de Handel, extraordinaire. Et j'ai commencé à me mettre dans la tête les tempéraments divers, pour me dire, enfin j'ai essayé de me documenter sur tout ça. J'ai un peu calé devant les tempéraments, hein. Je veux dire que écrire dans des tempéraments très très différents du tempérament que nous connaissons, ça me paraissait difficile. Bon, j'ai compris qu'ils étaient très très souples, hein. Ils ajustent très bien. Ouais. Et en fait, bon, il y a des tempéraments qu'ils utilisent qui sont très proches du tempérament tempéré, hein, qui sont pas très éloignés, donc on peut le faire. Mais je me suis quand même documenté sur les cors naturels, sur les trompettes naturelles, sur les. J'avais très envie de m'insérer dans ces instruments et leurs caractéristiques, mais aussi dans la manière de ce, parce que le comportement baroque n'est pas celui des orchestres normaux. Le comportement baroque, il y a une espèce de cohésion d'entente à l'œil, comme ça, qu'on trouve chez certains ensembles, évidemment, tels qu'Accroche-Notes, ça, c'est extraordinaire. Mais par exemple, les passages continuum, ça me fascinait, moi, ça me rappelait le jazz, dans la façon de s'écouter, et puis de se repérer les uns sur les autres, c'était formidable. Et donc, j'ai décidé, à ce moment-là, que l'œuvre que je ferais inclurait cette idée-là, en tant que composition, hein, l'idée du continuo, et puis, en plus, pour mettre en valeur les instruments que je découvrais, par exemple le théorbe, qui est un instrument magnifique avec des cordes à vide, graves, qui sont préaccordées, donc on peut changer l'accord, c'était merveilleux. J'ai décidé de faire des cadences pour ces instruments-là. Donc c'était à la fois continuo et concertino. Hein. Il y avait ça. Hein. Et donc le concertino comprenait comme instrument soliste, il y avait la contrebasse, hein, un Américain d'ailleurs. Un grand Américain qui venait toujours avec un chapeau de cow-boy. En musique baroque, c'est un peu drôle, ça. Et puis, c'est très sympa. Et puis, il y avait violoncelle. Alors, encore un Américain qui joue aussi bien la musique contemporaine, David Simpson, aussi bien la musique contemporaine que le continuo. C'est l'as du continuo. Hein. Il est demandé dans tout Paris, dans toute la France, pour les continuos. Mais il joue aussi bien des œuvres de Chelsea ou de moi, enfin c'est extraordinaire. Donc il y avait violoncelle, il y avait aussi le théorbe, j'en ai parlé. David Simpson joue aussi la viole de gambe, évidemment il jouait la viole de gambe là-dedans, enfin etc. Bon. Et puis j'ai été très intéressé par les hautbois baroques qui sont, alors ça a été un peu la surprise parce que pour moi c'était... c'était un instrument assez doux, n'est-ce pas, comme à l'orchestre, mais les hautbois baroques, c'est comme des trompettes. C'est très, très bruyant, hein, comme c'était à l'origine. C'est très, très, alors que les bassons, que je pense, c'est très, très bruyant, c'est très discret, des surprises. Hein. Et bon, je n'ai pas utilisé de cors, j'ai un petit problème avec les cors en général. Il y en a dans la Tales of a Summer Sea, mais je trouve que les cors ne sont pas assez discrets pour moi. Je veux dire, dès qu'on les fait monter, ils sortent trop. Et je ne sais pas comment manier ça, je vais le faire un jour. Pas de corps, mais des trompettes, oui, des trompettes. Et alors, je voulais deux trombones, mais comme j'étais au même programme que Charpentier et Mondonville, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, je vous raconte une petite histoire à ce sujet-là. Quand la brochure des arbres florissants pour l'année est parue, il y avait donc tous les programmes de l'année. et il y avait des reproductions de portraits des musiciens joués. Donc il y avait Purcell, il y avait Mandanville, il y avait Charpentier, puis il y avait moi. Et quelqu'un m'a fait remarquer qu'il fallait que je signale que je ne portais pas perruque. Mais c'était étonnant comme expérience, absolument étonnant, et très audacieux finalement, parce qu'il ne savait pas ce que j'allais faire. Bon, moi j'ai joué le grand jeu, j'ai fait une œuvre importante, parce qu'en plus il y avait l'année 2000 qui arrivait, et donc j'ai cherché un grand texte. Un grand texte, vous voyez, un texte signifiant, enfin, qui parlait de cosmogonie, de choses comme ça. Hein. Et donc, j'ai, comme le programme était entièrement fondé sur des œuvres en latin, je me suis dit que ça faciliterait les choses de rester dans le latin. Il y avait le Te Deum de Charpentier, le fameux, hein, et puis, comment ça s'appelle, In Exitu, je crois que ça s'appelait comme ça, de Mandanville. Qui est une très belle œuvre aussi. Et alors, ça a été donc la découverte de chanteurs baroques. J'ai une vraie passion pour les chanteurs baroques, dont la virtuosité, aussi bien dans les chœurs, parce que chaque membre des chœurs baroques est capable de chanter en soliste. Et donc, la virtuosité se multiplie par 10 ou 12. C'est ahurissant ce qu'ils arrivent à faire. Ahurissant. J'ai compté le nombre de doubles croches par temps qui sont parfaitement clairs et parfaitement propres. Je ne pensais pas que c'était possible avec des chœurs. Donc il y a tout ça qui a joué. Ça a été une très grande découverte pour moi. Bon, après, il a fallu se colter le problème du diapason. Hein. Moi, je n'ai pas une audition absolue suffisamment sûre pour que ça me gêne terriblement. Moi, j'imagine, si vous voulez, un instrument avec sa corde à vide, un instrument à corde, et ça marche très bien. J'ajuste comme ça. Non, mais là, c'était vraiment très, très bas. Hein. Vous allez voir, il va falloir que vous transposiez, si vous avez, parce que le « la » est à 392. Hein. Alors, par rapport à la partition, c'est presque un ton en dessous. Hein. Bon, c'était quand même un peu bas, même pour moi, et surtout pour les sopranos. Hein. J'avais pensé les sopranos plus haut que ça. Hein. Mais bon, apparemment c'était le diapason qu'ils allaient utiliser. Ils se sont excusés. Est-ce que ça t'embête beaucoup de... J'ai dit non, parce que moi je pensais que c'était 415, ça pouvait aller. Hein. 392, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Quand ils s'accordent, c'est très bizarre. Là, il faut vraiment ajuster. Hein, parce qu'on entend, alors on entend les cordes à vide jouer un sol, puisque c'est presque un sol. C'est très bizarre comme impression, hein, au départ. Mais apparemment, c'était l'accord qui permettait le mieux aux instruments de l'époque de jouer. Parce que sinon, il aurait fallu qu'ils aient plusieurs instruments, parce que le Charpentier et le Mandanville étaient conçus pour cet accord-là, apparemment. C'est ce que disait Christy, moi je ne suis pas musicologue. Hein. Donc j'ai cédé. Voilà. Donc sachez que vous entendrez ça... presque un ton en dessous. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais vous passer tout, parce que je voudrais aussi passer autre chose. Nous avons jusqu'à 13h15, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Alors, maintenant, il faut que je vous parle du texte, quand même. Alors, donc, ce texte que j'ai choisi, après avoir beaucoup cherché, j'ai cherché dans les poètes latins, donc ce grand texte que je cherchais. Hein. C'est ce texte qui parlait du monde, hein, de la naissance du monde. Et je suis tombé sur Lucrèce, que je ne connaissais pas. Enfin, je prends toujours conseil d'amis, poètes, érudits, etc. dans ces cas-là. Lis Lucrèce. Hein. Alors, je vais acheter Lucrèce à ma petite librairie du coin. Elle avait une édition bilingue extraordinaire. Et du coup, je me remets au latin que j'ai fait, moi, et avec une joie extraordinaire. Je découvre ce texte extraordinaire. Lucrèce était un personnage tout à fait hors norme, qui a été, on le considère comme un disciple d'Épicure. Il a été honni par la chrétienté. Enfin, il était considéré comme athée alors qu'il ne l'est pas vraiment. Il dit simplement que bon, les dieux ils sont là-bas, hein, les dieux sont là-bas, s'occupent pas de vous. Prenez-vous en charge, c'est ça qu'il dit à peu près. Hein. Et ça, pourquoi pas, hein. Et puis, mais il dit des choses qui ont dû choquer l'Église beaucoup, hein. Par exemple, il dit, j'ai mis ce texte en musique parce que pour moi c'est très important. La mort n'est rien. Après la mort, nous n'existons pas. Pourquoi s'affliger, hein. Donc ça, je l'ai mis en musique aussi, hein. Et puis alors, j'ai choisi dans ce grand texte, c'est un grand poème en hexamètre dactylique en plus, hein. Alors là, je me suis forcé à comprendre ce que c'était que cette structure poétique et à la respecter dans la mesure du possible. J'ai rempli des cahiers entiers avec des longues et des brèves pour comprendre comment ça marchait. Et je me suis fait évidemment conseiller et je me suis fait réciter tout le texte que j'avais choisi avec les tout bêtement, hein, sans intonation expressive, avec les longues et les brèves où il fallait. Qui implique pour que la versification soit correcte, et elle est correcte d'un bout à l'autre de ce gros livre, hein, qui implique, dactylique, vous savez, c'est une langue de brève, hein, et ça implique certaines élisions. Vous savez que le latin était friand d'élisions, c'est-à-dire que des mots qui sont concentrés. Par exemple, le mot terrorem au début est terror, et non pas terrorem. Voilà. Et donc j'ai tenu compte de tout ça et je l'ai assoupli. Hein. Je n'ai pas fait bêtement les longues et les brèves dans un rapport de 2-3. Hein. Et je l'ai assoupli. Mais dans l'ensemble, je l'ai respecté. Ça me permettait de m'insérer dans une discipline. Je me suis donné beaucoup de discipline là-dedans. Je me suis donné, par exemple, une des pièces. Alors là, j'ai partagé l'œuvre en 3 parties. Et c'est moi qui ai donné ces titres, prima pars, seconda pars, tertia pars. C'est pas Lucrèce, ça, c'est moi. Je trouve que je m'insérais dans le latin, enfin. Et comme pour Pétrarque, j'ai dû faire très attention en coupant, parce que de ne pas couper au milieu d'une phrase, de sauter un verbe, parce que le latin, l'ordre du latin, comme ceux qui en ont fait le savent, n'est pas le même qu'en français, évidemment. Donc, c'était le danger. Moi, je voyais le français, je disais, oh, ça, cette phrase est belle. Ah oui, mais où est le sujet, oh, etc. Bon. Et donc, je me suis fait aussi vérifier que tout était là. Hein. Là, vous n'avez pas le texte séparément, mais c'est un texte magnifique. C'est dommage que j'aurais dû apporter le programme, je ne l'ai pas fait. Le programme où était le texte en français et en latin. Bon. Je suis en train de me demander quelle partie. Je vais vous passer un petit bout de ça quand même. Enfin, si vous avez le temps, en tout cas, je vous conseille vivement de lire Lucrèce. Vous y trouverez de quoi réfléchir. Hein. Bon, j'ai envie de vous passer. Attendez, comment ça. Bah écoutez, je vais vous passer la deuxième partie. Alors la deuxième partie commence avec une sorte de passacaille qui m'a beaucoup amusé. C'est pas une passacaille qui est basée sur un thème de basse, mais c'est basé sur un thème d'accords. Il y a 11 accords qui se répètent et qui sont caractérisés chacun par un mode rythmique très très évident avec des rythmes qui se répètent. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas la partition sous les yeux, mais vous allez l'entendre, qui m'intéressait aussi parce que c'est tout à fait dans leur style de jouer ces rythmes-là. Tap, taram, 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 taram. Les accords sont marqués par cette espèce de marque de fabrique, en quelque sorte. Hein. Et alors il y a le baryton qui rentre, qui est une sorte de récitant, qui est doublé par le trombone. Alors finalement j'avais droit qu'un seul trombone, c'était assez bizarre, mais un trombone baroque. Hein. Alors je dois dire aussi, au point de vue formation vocale aussi, je me suis inspiré de formation baroque. Alors il y a deux sopranos, un couple de sopranos qui sont généralement appelés à intervenir dans les passages qui concernent la lumière, le soleil, enfin tout ce qui est clair, quoi. Hein? Je veux dire, c'est des images auxquelles on échappe difficilement. Et puis, il y a deux ténors, C'est une formation. Les choses sont en double comme ça. Les deux ténors sont utilisés un petit peu comme on les trouve chez Monteverdi. Il y a énormément de duos pour deux ténors qui interviennent en tant que commentaire du récitant qui est un baryton. Qui est un baryton, vous savez, est très spécial, pas dans ma pièce, mais je l'ai entendu dans Le Monde en Ville, c'est un baryton coloratour. Je sais pas si c'est une voix qui existe, pour laquelle il y a des œuvres qui sont écrites dans la musique baroque. C'est un baryton qui a une agilité comme une soprano coloratour. C'est extraordinaire. On n'entend pas comme ça. Il a un nom d'ailleurs, il s'appelle Schubert. Schubert. Alors, donc la deuxième partie, et la troisième peut-être, on va voir si on y arrive. Alors ça c'est donc le concert, c'est un enregistrement live hein, de radio. Attends, je ne me trompe pas, voilà. Seconde partie. Donc il y a des petits défauts, hein, attention. Pardon, c'est pas ça. C'est la deuxième partie. Thank you. C'est toute la dernière partie, c'est évidemment la part sur la mort, hein, où il dit que la mort n'est rien pour nous. Nil est ad nos. Hein. Et avant ça, il y avait un passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, où il était question, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Lucrèce a élaboré toute une théorie sur les atomes, qui est très célèbre, et sur l'ordre du monde qui est immuable. Et comme tout de même, c'était un peu compliqué, un peu gênant plutôt, d'imaginer que le monde était immuable, qu'on n'y pouvait rien. Il a inventé cette chose extraordinaire qui est très célèbre, c'est le clinamen, c'est-à-dire cette petite inclinaison des atomes qui fait que les choses dévient de temps en temps, ce qui fait qu'on peut quand même influer sur le cours des choses. Hein. Et donc le clinamen, il en avait été question, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte. Voilà. Bon, je crois que nous avons juste le temps d'entendre une œuvre toute récente. On va peut-être pas l'entendre en entier, mais au moins un bout. Alors là, c'est un concerto de piano pour piano et chœur, chœur sans orchestre. Hein. Bon, j'étais parti du principe. Il n'y a pas le texte, zut. Bon. Enfin, je pensais qu'il y aurait le texte, ça fait rien. Ça s'appelle Concerto Fantaisie, O Night O. Vous savez que dans la musique chorale, surtout la musique allemande du 19e, il y a beaucoup d'œuvres avec piano, hein, où le piano accompagne le chœur comme dans un lieder. Et là, j'ai voulu vraiment que le piano soit devant, que ce soit un vrai concerto et que le chœur soit derrière. Et le chœur n'est pas du tout une imitation de l'orchestre. Le chœur est un chœur et qui chante des paroles, qui chante des textes. Et alors les textes sont une compilation, comme on en fait beaucoup, de deux poèmes de Victor Hugo que j'avais déjà traités, encore une fois, qui concernent le sommeil. Tout ce concerto, tout le texte de ce concerto est autour du rêve, du sommeil. Donc il y a des berceuses de mon enfance, il y a des prières qu'on me faisait apprendre quand j'étais petite, avant de me coucher. Donc, et alors il y a surtout des mélanges de langues, notamment au début vous avez cette prière qu'on m'apprenait quand j'étais petite en anglais et je ne savais pas l'anglais, donc je ne comprenais rien à ce que je disais et je le disais avec l'accent français. Alors tous les anglophones ici la connaissent sûrement. Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Bon, quand on pense aux paroles, c'est absolument sinistre, hein, d'apprendre ça à un gamin, c'est une gamine. Hein, mais moi je comprenais rien. Et alors j'avais traduit ça comme ça. Je disais Now I lay me down to sleep, I pray the Lord, et de l'or, c'était de l'or, le métal. Je trouvais ça formidable, j'adorais tout ce qui brillait, c'est bon, voilà. I pray the Lord my soul to keep, if I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Et donc, le chœur le prononce comme ça au début, puis finalement arrive la bonne prononciation, c'est un peu un souvenir d'enfant. Et puis alors là, il y a sept mouvements. Donc le premier mouvement est basé sur cette prière et sur une berceuse aussi sinistre que me chantait ma mère. Rock-a-bye baby on the treetop, when the wind blows the cradle will rock. When the wind blows the cradle will fall and down we come baby and cradle and all. Affreux, ça fait le bébé qui tombe de la branche avec le vent, enfin c'est affreux. Bon. Mais vous savez, souvent, c'est assez significatif, je veux dire, une mère qui est toute seule à bercer son enfant, qui ne veut pas dormir, elle a vraiment, elle est agacée, elle en a marre, elle voudrait le voir aux gémonies, vous savez, hein, elle voudrait vraiment parfois le jeter parce qu'elle l'embête, parce qu'il crie, parce que voilà. Hein. Bon, c'est une façon d'évacuer ce genre d'horrible pensée, n'est-ce pas, de chanter des berceuses pareilles. Hein. Il y en a d'autres, hein, ça existe. Voilà. Les garçons ne peuvent pas comprendre ça, mais quand on a été mère, qu'on a eu des bébés, on sait. Et alors, donc, il y a cette berceuse qui vient se mêler à ça, que j'ai appris aussi, c'est très lié à mon enfance. Sur le tard, n'est-ce pas, on pense à son enfance. Hein. Et ça, c'est donc la première pièce. Ensuite, il y a, là, je suis très, très conscient du fait qu'il faut Il faut penser à qui joue quoi dans une œuvre, n'est-ce pas? Bon, après ça, il y a le piano qui joue seul. Il a une pièce seule, hein, qui par la suite pourra se jouer seul sans le concerto. Ça, c'est numéro 2. Ensuite, numéro 3, c'est le poème de Victor Hugo pour chœur, avec des commentaires. Le piano est vraiment en arrière, là. Il commente. C'est quelque chose que j'ai rajouté au chœur qui existe aussi tout seul, hein. Que j'ai composé. Alors c'est un texte magnifique qui concerne le sommeil et la mort en même temps. Tout corps couché prend la ligne de l'horizon de l'ombre. Ça commence comme ça. Et alors je l'ai mélangé avec un texte de Shakespeare qui est présenté en français et en anglais. Un texte qui est tiré du Songe d'une nuit d'été, au Wall. C'est un endroit absolument fascinant où les paysans viennent jouer une pièce pour le roi et la reine. Et ils essayent de faire une pièce comme font les nobles, n'est-ce pas? Donc ils ne savent pas très bien comment l'arranger. Donc ils savent qu'il faut faire une invocation. Alors, donc on invoque, il y a deux amants qui sont de part et d'autre d'un mur, et on invoque le mur, on dit « Oh, wall !» Voilà, c'est dans Shakespeare, vers la fin de « Midsummer Night's Dream ». Et après ils invoquent la nuit, « Oh, night !» Et alors c'est tellement drôle ce qu'ils disent, « Oh, night which always art when day is not enfin, !» Ou la nuit qui est toujours quand le jour n'est pas, enfin, c'est le genre de choses qui est absolument merveilleux. Et puis alors, oh night, alack, 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 oh nuit, hélas, 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 en tout cas, c'est très merveilleux texte. Bon, et comme il est question de nuit tout le temps, donc ça donne aussi le titre du concerto qui s'appelle Concerto Fantasy, oh night, oh. Et donc, oh avec o, oh, virgule, oh night, et virgule, et puis oh, oh, bon, avec trois petits points, voilà. Concerto Fantasy, hein. Donc ça date, c'est tout récent, 2001, c'était donné à Strasbourg l'année dernière. Hein. Voilà. Oh night, alack, alack, etc., etc. Hein. Et le quatrième mouvement, c'est une sorte de scherzo, et là j'ai repris l'idée des thèmes d'accords qui sont traités en variation pour le piano, n'est-ce pas, par la suite. Mais là aussi, il y a des textes qui sont vraiment liés à mon enfance, à ce que me disait ma grand-mère en allemand, en français, en anglais, to bed, to bed, to bed, to bed. Mais c'est aussi Macbeth, n'est-ce pas? Il y a to bed, to bed. Oui. Et ma grand-mère disait Kinder ins Bett. Elle parlait qu'allemand, ma grand-mère. Hein. Et puis faut faire dodo, hein, faut faire dodo, ça c'est français. Hein. Et alors il y a un moment donné où l'enfant a peur. J'ai fabriqué un texte en trois langues. Et l'enfant a peur, il ne veut pas dormir, ce qui m'est arrivé en tant que mère. Moi, les gosses qui ne veulent pas dormir, ça existe, hélas. Et alors, en trois langues, on lui dit, mais non, il ne se passe rien, mais je l'assure. Alors ça devient très excité, mais il dit, non, il n'y a rien, tu peux dormir. Non, voilà. Es ist gar nichts, en allemand, etc. Ça fait toute la partie centrale. Et puis la fin, donc, c'est dodo, hein, il se calme finalement. Hein. Alors, le cinquième mouvement est de nouveau une pièce de piano. Alors, le début commence comme une sorte de fantaisie, et en plus, après, il y a une pièce qui s'inspire d'une étude de Chopin dans laquelle la main gauche délire. C'est une extraordinaire pièce. Je ne sais plus à quel ton elle est, je ne m'en rappelle plus. Parce que je n'ai jamais pu la jouer en plus. Je n'ai pas de main gauche, donc c'était une espèce de frustration. Et je me suis amusé à faire une espèce de basse très écartelée sur laquelle c'est la main droite qui joue la main gauche, là, mais qui joue à quelque chose de. C'est à la fois l'étude de Chopin et le deuxième mouvement du concerto italien, c'est-à-dire une énorme mélodie qui se déroule comme ça. Elle n'est pas si énorme, là, parce que c'est dans un autre cadre. Hein. Deuxième pièce pour chœur, qui existe aussi seule, qui concerne les rêves. C'est un texte de Victor Hugo, aussi, que j'avais déjà traité, et qui rêve tombé sur l'endormi, qui est également mélangé avec du Shakespeare. Donc, Victor Hugo, Shakespeare, excusez du peu. Hein. Au sleep, on entendra par exemple au sleep. Et il figure également, le texte de Shakespeare figure également en traduction française, de sorte que ça se mélange complètement. Hein. Victor Hugo fait en traduction anglaise, enfin bon, c'est. Voilà. Par exemple, à la fin, vous entendrez le mot bercement, lulling, que j'ai traduit en anglais, lulling, mais le bercement, c'est en français, c'est dans le Victor Hugo, voilà. Donc ça, c'est, et ça finit sur dormir, n'est-ce pas? De nouveau une pièce de piano, mais c'est la dernière pièce, donc ça commence comme, parce que je me suis dit, après le chœur, il faut que de nouveau le piano soit en avant, et donc le piano recommence tout seul. Pendant la pièce de chœur, il a fait entendre un do dièse aigu, tout seul, comme une espèce de... Vous savez, quand un robinet coule, on n'arrive pas à dormir. Hein. Vous savez, quand t'as un problème de plomberie, hein, le robinet coule et il y a une goutte qui tombe de tout le temps. Et c'est insupportable. C'est parce qu'on finit par ne pas dormir du tout et on compte les gouttes et on écoute. Voilà. Donc, ce piano fait un peu ça. Donc, il repart sur le do dièse. Et puis, il va falloir s'en débarrasser après. Bon, ça s'en débarrasse. Et alors, là, le chœur rentre avec cette merveilleuse phrase, toujours de Howell, « Well shone moon !» Parce que la lune est un personnage. Donc, « Well shone moon !» bien brillé, la lune, littéralement. Voilà. Et donc, après, je me suis cité moi-même des chansons d'enfants où il était question de la lune. Justement, au regard de la lune, une chauve-souris s'est posée sur la lune. Hein. On dirait qu'elle dort, etc. Et puis, on revient à la prière du début. Bon, c'est presque un da capo, mais pas tout à fait la même musique abrégée. Et finalement, la prière est récitée comme à l'église. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on arrive jusque-là. Je ne sais pas. On va voir. Bon, je vais vous le faire entendre. Là, vous avez des partitions, mais il n'y a pas le texte, c'est dommage. Bon. Alors, je vais espérer que... Alors, ça, c'est une cassette, hein, c'est pas formidable. C'est pris en live. La radio ne s'est pas intéressée à ce concert, non? Alors, je ne sais plus comment on fait. Comment est-ce qu'on fait? Excusez-moi, je ne sais plus comment on fait pour la cassette. J'ai oublié. Oui, je ne sais plus que. Il faut que je. Oui, ça, j'ai compris là, mais après, en dessous, là.
C'est celui-là.
Voilà. Bon. Non.
C'est celui-là.
Ça va partir, je crois. Voilà.
Thank you.
Voilà. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Bon, déjà, on a terminé un mouvement, là. C'était le mouvement rapide, quoi. Hein.
Il y a une petite erreur dans l'écriture.
Attention, il faut parler avec le micro, hein. Sinon on se fait engueuler. Il y a une erreur dans l'écriture.
Pardon, ben, toute erreur dans l'écriture en allemand, c'est-à-dire, vous avez écrit Schlaf, Kindlein Schlaf, mais Schlaf, sans double point.
C'est pas
dire Schlaf. Schlaf.
Oui, c'est pas corrigé.
Non, Schlaf.
Ah, c'est que
les
c'est...
doubles points, oui. C'est.
Non,
c'est
non, trop. Mais alors je pensais que c'était corrigé, parce que tout a été corrigé,
ah,
revu, mais apparemment ça n'a pas été. Bon, je vais signaler. Merci. Merci. Oui. Une autre.
On peut vous signaler après.
Il y a une faute dans.
Une autre, erreur d'allemand.
Pardon?
Il y a une autre erreur d'allemand aussi, donc je crois que ça c'était peut-être pas corrigé.
Mais vous ne voulez pas me dire lesquelles, enfin me l'écrire, hein, parce
c'est,
que
c'est
je vais...
Wirklich.
Hein, Wirklich?
Yeah, c'est I et pas IE. Donc,
C'est l'allemand de ma grand-mère, hein, c'est de mon enfance. Hein. Voilà, non merci, hein. Voilà, Wirklich. Bon. À part ça, rien de plus sérieux à dire. Voilà, bon.
Non,
oui. Le micro, oui.
Donc, pour moi, c'est absolument intéressant la mélange entre la langue, mais en fait, les discours, je n'ai pas bien compris. Vous avez bien mélangé les langues, mais en fait, les discours sémantiques, et la discours sémantique.
Ben, on ne comprend rien, c'est évident. Hein.
Voilà.
Non, non, mais ça, c'est la faute du... Bon, le cœur est très beau.
Oui.
Le cœur accentus, pour tout, pour
ouais.
tout dire.
Ouais.
Très beau, mais il n'y a pas de texte, jamais.
Ouais.
Jamais, on comprend jamais rien. C'est le seul défaut. À part ça, c'est magnifique
ouais.
et c'est très juste, mais il n'y a pas de consonne, pas de voyelle, de sorte qu'on ne comprend rien. On devrait comprendre ouais. quelque chose. Ouais. Mais on ne peut pas tout comprendre, hein, c'est pas possible. Mais ce n'est pas grave, on devrait comprendre des choses comme ça, qui vous jettent à la figure. Hein.
Mmh,
oui.
C'est vrai.
Mais donc... on ne peut jamais tout comprendre dans une œuvre vocale. Ce n'est pas grave, ça. Mais il faut comprendre quelque chose. Hein,
ouais.
Quand il y a des paroles. Hein, quand il y a des paroles. Je m'excuse, je suis obligé d'arrêter parce que je repars à 2 heures et il faut quand même que je mange
voilà.
Avec un lance-pierre, comme on dit.
Merci.
Voilà.